la bande originale, soyez les bienvenus sur France Inter avec Morgane Cadignan, avec Marina Rollman. Ah, tout à l'heure, Tanguy Pastureau sera avec nous. Daniel Morin est là aussi, hélas. Et nos invités, Catherine Corsini et Pio Marmaille.
Ah, mais bravo!
Mais non, Daniel. Première semaine de vacances, Nagui n'est pas avec nous. C'est moi qui prends les rênes de l'émission.
À tout moment, il peut débarquer.
On ne sait jamais. En tout cas, on va parler aujourd'hui d'un très bon film, La Fracture, réalisé par Catherine Corsini, qui vient nous en parler avec Pio Marmaille. On va jouer d'abord. Tanguy, tu es chaud, tu es prêt. Tu es prêt à tout donner.
Oui.
Blind Test, premier titre.
Morgane.
Morgane.
C'est Véronique Sanson.
Ouais.
Résiste. Non, c'est France Gall, pardon.
C'est France Gall.
Aïe, aïe, aïe. Moi, je pense moins 10 points.
Non, je lui donne le point.
Je me suis auto-corrigée. Prouve que
tu existes. Non, c'est sur la résistance. Non.
On va parler de ce film La Fracture de Catherine Corsini, où il est question en effet d'une France qui est en pleine ébullition, des gilets jaunes. Voilà, donc de la France, de la résistance, des fractures
politiques.
Ça va être très très large comme champ lexical. C'est parti, deuxième titre.
Tanguy.
Marina. Tanguy.
Michel Polnareff.
Le titre
France.
Lettre à France.
Lettre à France.
Lettre à France.
Voilà, désolé.
Bravo. Raté.
C'est quoi le
thème? C'est bien pour commencer un lundi matin, ça.
La France, monsieur Morin. C'est la France.
La
vous dérange?
Un
peu. Qu'est-ce que vous avez avec ce pays? Un peu.
Troisième titre.
Tanguy.
Oui.
Etienne Dao.
Bravo. Voilà. Tombé pour la France, Tanguy. Carton.
Etienne Thibault. Etienne Forêt.
Ou pas?
Ah si.
Ah ouais? Ça a commencé quand?
C'est mon petit truc.
Il paraît.
C'est son petit crush. Plaisir.
Oui.
Deux points pour Tanguy, un point pour Morgane.
Voilà. Qu'est-ce que c'est que ce truc?
Daniel?
Ouais.
John Williams?
Non.
Bien tenté.
Non, mais tu vas voir quand tu vas deviner qui c'est.
Daniel?
Ouais.
Michel Sardou?
Oui.
Ah. Le John Williams français, hein.
Eh ouais.
La France.
Jamais France.
J'aime qu'on chante ça en cœur. Bonnes vacances à tous. Si vous êtes sur la route des vacances.
Semaine.
Et Daniel a les yeux qui brillent, hein. Il est heureux.
Tais-toi, laisse-moi pleurer.
Mais c'est pour ça que je l'ai mis dans le blind test. Il faut faire plaisir à Daniel.
Merci, ça le fait.
C'est bien, un vieux couple qui se connaît bien. Il
revient à ma mémoire. Daniel, bah, quart de séjour.
Oui, bravo.
Bravo.
Douce France.
Douce France. Allez. Il fallait bien proposer une réponse à Michel Sardou. Donc on est 2 points pour Daniel, 2 points pour Tanguy, 1 point pour Morgane. Il reste 2 titres.
Tanguy,
oui.
Marc Lavoine, c'est ça la France.
Oh là là,
il a un truc à Tanguy.
Ah bah Marc Lavoine, c'est mon petit truc aussi.
Bah, dis donc, il y a du monde. Hein.
Ah, j'ai des petits trucs.
T'as beaucoup de petits trucs.
Etienne Dao, c'est ça la France, Marc Lavoine. 3 points pour Tanguy qui est en tête.
Ça fait
Daniel 2 points, Morgane 1 point. Marina, c'est super bon. Absolument.
C'est sur réserve, Marina.
Il faut être rapide.
Tanguy. Jacques Dutronc, Merde in France.
Ouais. Non, en même temps, c'est mérité.
Ouais.
Moi, la France, je suis à fond. J'adore
et
ce pays.
Et c'est une victoire de Tanguy Pastureau.
Vive la France. Vive la France.
Bravo, oui. Tanguy. Et on accueille nos invités, Catherine Corsini et Pio Marmaille.
France Inter.
Bonjour.
La bande originale.
C'est par là, Catherine.
Leïla Cadou.
Soyez les bienvenus tous les deux. On va parler de La Fracture, un film que vous avez réalisé, Catherine, qui est en salle ce mercredi. Avec vous également, Pio Marmaille. Soyez les bienvenus. Un film qui débute pas vraiment, mais en tout cas qui va beaucoup se jouer dans un service d'urgence. Avec, disons, deux personnages principaux qu'on va retrouver beaucoup aux urgences. Ça va, Pio?
Il veut partir en urgence.
Écoutez, je suis à l'article de la mort. Mais je suis avec vous. Allez-y.
Et on est ravis. Vous incarnez un gilet jaune, Pio Marmaille, qui, l'un des samedis de cette période où il y a beaucoup de manifestations en France, va être blessé par des CRS et va devoir être hospitalisé ou en tout cas dirigé directement aux urgences. Et puis l'autre personnage aussi auquel on s'attache beaucoup, c'est le personnage incarné par Valeria Bruni-Tedeschi, Raph, qui, elle, va se fracturer le coude Ouais. Et ça vous dit quelque chose, cette histoire, Catherine Corsini?
Regardez
la cicatrice.
Mon coude.
On voit la cicatrice.
Hein, donc on a bien compris. Une petite ressemblance. Ouais.
C'est, Raph, c'est vous en partie.
Ouais. Pas mal, pas mal. Ouais.
Je crois que c'est ce qui vous est arrivé, en fait. Vous avez été conduite aux urgences.
J'ai essayé qu'elle ait un peu moins mauvais caractère que moi.
Ah bon?
Mais au niveau. Ça en dit beaucoup sur vous.
Elle est d'une mauvaise foi incroyable.
Voilà. Mais la mauvaise foi, c'est délicieux.
C'est vous, donc, pour dire ça comme ça. Ouais, c'est vous. Ouais. C'est vraiment vous. C'est ce qui vous est arrivé? Vous êtes blessée? Vous avez été.
Oui, j'ai glissé. Ma copine, dans les urgences, m'a dit que j'avais glissé sur du vomi. Je lui ai dit non, mais c'est pas possible. C'est pas moi, ça. Bah si, voilà. Voilà. J'ai pas rencontré un gilet jaune, mais je me suis dit que c'était un endroit où on pouvait inventer des rencontres possibles, parce qu'il y a énormément de gens qui arrivent aux urgences, hein, c'est une espèce d'arène, c'est une espèce de rond-point où sont confrontés, où on voit vraiment effectivement la société française dans toute sa misère, souvent. Et donc, je me suis dit que, une manifestation de gilets jaunes, comme il y en avait beaucoup ce jour-là, et que de toute façon, il y en avait beaucoup qui partaient aux urgences vitales. Donc je me suis dit que c'était intéressant de confronter des points de vue, parce que c'est ça aussi, c'est la comédie, c'est de se faire confronter des gens qui ne sont pas forcément d'accord et qui, dans cette nuit aux urgences, comme dans les bonnes comédies, on n'est pas d'accord, on s'engueule, on crie, on s'insulte, on rit, et puis à un moment, on découvre des points communs.
Et on finit par
moment, même on est obligé de faire front ensemble par rapport à des situations.
Ouais.
Donc voilà, c'est toute cette nuit qui se déploie. Là, j'en donne des coups de poing dans mon
allez-y.
Micro.
Voilà.
Mais c'est à la fois une comédie et on rit beaucoup parce qu'en effet le personnage notamment de Raph est très drôle et amène une forme de folie dans un endroit déjà fou. C'est aussi un film de guerre quoi. C'est un film de suspense, c'est un film haletant dans une France qui va mal, dans une France qui gueule, dans une France qui est fatiguée de lutter, de ne pas être entendue et une France qui se fracture là aussi avec justement ce personnage de Pio Marmaille qui est un routier qui est aussi gilet jaune, et puis ce couple avec Valeria Bonitedeschi et avec Marina Foïs, un couple qui vit bien, qui a un niveau de vie plutôt aisé.
Enfin,
elle est dessinatrice.
Elle travaille dans la bande dessinée. Oui. À un moment, quand elle revoit un copain d'enfance, comme par hasard, qui est là aussi aux urgences, quand il lui demande comment ça va, elle dit « bah oui, je suis éditrice de bande dessinée, mais bon, ma société va faire faillite ». Donc, on voit bien aussi que c'est, à chaque fois, c'est un peu les revers des idées préconçues qu'on a les uns sur les autres. C'est-à-dire que, bon, on imagine toujours que le côté un peu bobo parisien, etc., tout c'est l'opulence, etc. Bah non, on a des difficultés, comme souvent même des gens dans le cinéma, tout n'est pas rose et il n'y a pas que des gens qui sont en haut de l'échelle. Il y en a aussi qui sont, on a vu des précaires pendant toute cette période qu'on a traversée par rapport aux artistes et par rapport au théâtre vivant, par exemple. Voilà, on est dans des endroits où les choses sont plus complexes et sont pas tout d'un coup aussi aussi simple qu'on voudrait bien nous le faire comprendre, quoi.
Et la fracture est partout. Elle est au sein de ce couple qui va mal. Elle est au sein du corps de Raphaël, puisqu'elle finit par se fracturer le coude. Cette fracture aussi avec une autre France qu'on ne connaît pas, sur laquelle on a beaucoup de préjugés. Si on est gilet jaune, forcément, on vote extrême droite. Une fracture aussi au sein de l'hôpital, qui est vraiment dans ce huis clos, qui est très très important. Vous parliez de cette arène-là, mais c'est une arène qui est aussi en fragments, puisque on peine à s'occuper des patients, on n'a pas le temps, on n'a pas les moyens, on n'a pas assez de lits. On est dans cette situation dont on parle depuis plus en plus, depuis le Covid, mais de cette difficulté à avoir de la place, à s'occuper des gens, et on pourrait même en arriver à oublier des gens dans les couloirs. Parce que ce que vous filmez dans l'hôpital, c'est à la fois des scènes de tension. Je ne sais pas comment vous avez réussi à tous les mettre autant en tension, mais on est vraiment aux premières loges de ça. Ils sont vraiment très très agacés, très énervés. Tout peut exploser en fait. C'est un chaos.
Ah oui, je pensais à des films, j'allais dire comme Un après-midi de chien. Je pensais à des films où vraiment on est tout le temps avec les personnages. C'est-à-dire qu'en même temps, toutes ces personnes ou ce gilet jaune, ils sont incarnés par un personnage extrêmement à la fois vivant, à la fois touchant, à la fois humain. J'ai essayé de donner des récits à chaque personne, comme à cette infirmière aussi qui essaye de sauver. J'allais dire, on a l'impression sent qu'elle essaye de sauver elle toute seule l'hôpital,
qu'elle
essaye
d'être partout
à la fois, alors qu'elle est elle-même prise dans une situation familiale où son enfant est malade. Enfin bon, c'est tous ces récits qui font corps, qui font sens et qui racontent effectivement toute cette société française qui est divisée et qui en même temps essaye de résister. Et on sent justement cette violence qui afflue vers l'hôpital, qui va rendre cette nuit complètement folle et complètement intense. Et qui en même temps fait évidemment provoque à la fois des choses absurdes, à la fois des choses drôles et à la fois des choses où on a l'impression que on a peur quoi. Oui. On est suffoqué parce que il y a des gaz lacrymaux qui rentrent dans l'hôpital.
Il y a un œil extérieur, enfin. C'est les écrans de télévision qui montrent ce qui se passe à l'extérieur. Oui. Et là il y a comme une sidération générale
de voir de ces scènes de violence. Ouais. Et ce personnage Pio Marmaille que vous incarnez, Catherine l'a écrit pour vous. Ce routier grande gueule qui vient... Qu'est-ce que c'est cette voix?
Pio, on va changer de voix, on revient.
C'est parti, je suis revenu. Oui, c'est ça, Catherine m'a dit qu'elle avait écrit le rôle pour moi. Mais après, je pense que c'est un truc d'énergie. Moi, c'est ce que je raconte à chaque fois. C'est vrai que, en tout cas, ce personnage-là, moi, il a fait un peu écho dans la personne que je peux être. C'est-à-dire ce truc de révolte, de sentiment de comment dire d'être mis à côté, de pas être entendu, cet endroit d'abandon quoi. Mm. Et ce truc de survoltage, c'est quelque chose qui m'a fondamentalement parlé moi en tant qu'individu.
Et c'est un personnage qui a une forme d'idéal, c'est-à-dire que il participe aussi à ces manifestations
parce que
il veut parler au CRS, il veut parler au président.
Mais c'est ce que raconte le film en fait, c'est l'endroit de la parole en fait, c'est l'endroit d'être ensemble et de se parler. Après ça passe d'une manière parfois maladroite, parfois violente, mais ce qui me bouleverse dans ce travail là, c'est simplement quelqu'un qui veut être entendu en fait, hein. Mm. C'est juste ça, ça va pas plus loin que ça. Et je pense que c'est ce que développe le film, c'est dans cet endroit de drôlerie et de bouillonnement général, de cocotte-minute qui va exploser, c'est l'endroit des gens qui ont simplement besoin de s'entendre et de s'écouter, quoi.
Oui, c'est quelqu'un qui veut dire, veut être entendu, qui veut travailler aussi, parce qu'il a cette obsession de reprendre son camion pour retourner au travail. Il n'est pas juste là pour râler ou pour faire part d'un mécontentement. Non, il est dans son action, il est dans sa vie. Oui. Il est vraiment. C'est un très beau film, La Fracture, qui est drôle.
Merci.
Non, mais vraiment. Et qui est une sorte de film de guerre, et en même temps, qui est un film, moi, qui m'a fait beaucoup rire à plein d'endroits, parce qu'en effet, c'est renouer un dialogue qui n'existe plus et le faire dans ce lieu-là de l'hôpital sous tension. Je trouve que c'est une idée assez merveilleuse. Vous l'avez compris, on a aimé ce film autour de ce micro.
Ah mais c'est sympathique d'être ici ce matin.
C'est agréable, qu'est-ce que c'est agréable.
Mais ça va pas durer.
Les champions du monde MotoGP, bravo Fabio.
Alors ça, on va en parler un petit peu après, Pio. Mais alors, la mauvaise nouvelle, c'est qu'autour de cette table, il y a quelqu'un qui ne vous aime pas et elle, c'est Morgane Cadignan.
Ah,
elle est là. Catherine, c'est par là.
Elle chante, elle est là.
Pio Marmaille, Catherine Corsini, je vous aime pas, mais super film tout de même. Moi, j'ai adoré. Non, vraiment. Franchement, après deux ans.
Je ne vous aime pas.
Mais je vous aime bien. Après deux
mais
ans.
Mais moi non plus, je ne vous aime pas.
Non, mais j'ai adoré parce qu'après deux ans et demi de Covid, ça fait du bien de se refoutre un peu la tête dans la crise des gilets jaunes. Non, mais ça nous change, c'est rafraîchissant. C'était des bons samedis, quand les gens précaires manifestaient dans les rues et que les gens pas précaires trouvaient que les gens pauvres, c'est un peu comme les enfants à Trouville. Tant que ça se fait discret, ça va, mais quand ça commence à faire trop de bruit, vraiment, ça peut te foutre en l'air un week-end. Moi, je m'en rappelle, la crise des gilets jaunes, ça m'a fait perdre pas mal de potes, malheureusement. Pas parce qu'ils ont pris des tirs de flashball, mais parce que je me suis rendu compte qu'ils étaient putain de cons dans les discussions. Waouh, Michel, pour quelqu'un qui roule ses clopes en converse trouée, c'est quand même très très à droite ce que tu dis. Hein. Parce qu'après 3 ans, on a retenu tout ça, surtout des barbecues sur des ronds-points, alors que peut-être que les gens qui faisaient ça, ils faisaient cramer des saucisses à défaut de pouvoir cramer le monde. Alors moi, je vous dis ça, finalement, dans le seul but de finir dans une story de Raphaël Glucksmann, parce qu'il faut être honnête, je suis pas descendue manifester. J'étais roulée dans mon petit plaid d'individualiste. Parce que soyons honnêtes, entre comprendre le combat et lever mon cul, y a un canapé et un paquet d'OCB Long sur la table, donc je suis pas allée. La dernière fois que je suis allée manifester, c'est une histoire assez rigolote. C'était pendant le mouvement Black Lives Matter, juste après l'assassinat de George Floyd. Je vous ai dit que ça allait être hyper rigolo. J'étais chez moi et il y avait un rassemblement devant le palais de justice et de ma fenêtre, je voyais les manifestants passer au loin et je me suis dit que c'était un moment historique et que quand même fallait en être et que je peux me positionner en tant que citoyenne et instagrammer un bout de concert gratos de Camélia Jordana. Donc en tant que bonne gauchiste, je pose mon valeur actuelle, je remets mes sushis au frigo. Alors, je suis gauchiste, mais à la fois, je confonds très très souvent ma gauche de ma droite au volant. Donc, en votant, pareil. En 2017, j'ai mis un flyer de mon spectacle dans l'urne, tellement j'étais pas concentrée. Le soir même, je me suis retrouvée à distribuer le programme de Marine Le Pen devant le Jamel Comedy Club. C'était une chouette soirée. Bref, donc ce soir-là, flemme d'être une bonne citoyenne à pied, je prends mon Vélib, je m'avance vers l'épicentre d'indignation. Et là, alors que je suis à un bon 300 mètres de là où ça se passe, je me prends un jet de lacrymo pleine face. Et franchement, je sais même pas d'où ça tombe. Il y a même pas d'affrontement. Je soupçonne un ex derrière un fourré parce que dégueulasse, mais c'était improbable. Ma première pensée, c'est que si je deviens aveugle, ça va être pénible. Je suis trop vieille pour commencer le piano, j'ai pas spécialement envie d'aimer les gens au fond d'un train ou dans un vieux grenier. Donc sur le moment, ça me fait un mal de chien. Et là, je me rends bof compte hein, que la roue de mon Vélib est coincée dans le rail du tramway. Et là, j'entends le ding-ding du tramway en approche. Et c'est pas un bruit qui me dérange quand je suis pas dans le chemin du dit véhicule. Là, ma deuxième pensée, c'est « Oh bah c'est pas ouf comme mort ça, Morgane hein ?» Un petit côté Far West à Porte de Clichy, ça va faire une épitaphe de merde. Et de là, il y a trois mecs qui m'ont tiré, enfin.
Alléluia.
Merci à ces mecs-là. La police n'avait pas encore eu l'occasion de s'asseoir dessus, donc ils ont eu le temps de mêler. Donc les manifestations, ça peut être violent, mais moi, en 17 minutes, j'ai quand même vu pas mal d'entraide. Parce que c'est ça aussi qui raconte votre film, Catherine. Les gens un peu moins visibles, qui pour le devenir sont obligés de se réunir à plein pour marcher. Ça suffit rarement de marcher. Alors parfois on crame, parfois on casse. Heureusement, il y a des gens qui font des films sur eux. Parce que si on compte sur moi, bah autant se barrer tout de suite sous les sunlights des tropiques.
Bravo Morgane.
Vous nous aimez beaucoup alors.
Oui. Oh, on a aimé.
C'est de la poudre aux yeux toute cette haine.
Mais oui, comment vous avez traversé, vous, à titre individuel, puisque vous mettez beaucoup de vous aussi dans ce film, les Gilets jaunes, ces manifestations, ces samedis où on avait les yeux rivés sur les écrans de télévision. D'ailleurs, dans le film, on voit des scènes. Vous avez aussi ajouté ces scènes, reconstitué même des scènes.
Ah bah moi je l'ai vécu comme un peu comme Raph, c'est-à-dire avec une idée que bon le mouvement l'extrême droite etc. Ouais. et puis effectivement les gens un peu j'allais dire comme on dit les intellectuels les gens qui auraient dû j'allais dire être du côté des Gilets jaunes ils ont mis beaucoup de temps et certains évidemment n'y sont pas allés ils ont mis beaucoup de temps à comprendre que ce mouvement il était effectivement il y avait pas que l'extrême droite qu'il y avait il y avait beaucoup de gens divers et qu'il y avait aussi des gens qu'on n'entendait pas qui réclamaient des choses assez simples c'est-à-dire justement que leur grand-mère, que leur grand-père bah, puissent avoir des retraites décentes, qu'on puisse, j'allais dire, pouvoir vivre de son travail, c'est-à-dire pas le 15 du mois être complètement pris à la gorge, et que le prix de l'essence, quand on est dans des déserts, j'allais dire, et qu'on pour aller au supermarché, il faut prendre sa voiture, pour aller emmener ses enfants à l'école, il faut prendre sa voiture, pour aller au travail, il faut prendre sa voiture, etc., bah, le prix de l'essence, effectivement, c'est pas la même chose que quand on est parisien et qu'on a des transports, etc. Voilà, qu'il y a une France périphérique qui est complètement abandonnée, que tout d'un coup, bah, ça m'a mis, j'allais dire, en éveil, et je me suis dit, il y a un problème de même comment on amène la culture dans ces endroits-là, comment on retrouve du lien, comment on refait société, parce que faire société, c'est être tous ensemble, c'est être différent, c'est pouvoir avoir des avis différents, mais c'est quand même on est ensemble, c'est pas simplement avoir qu'une seule voix, une seule façon de voir les choses. Oui. Et donc c'est ça, c'est aussi, je pense, le mépris dans lesquels les gens se sentent. Voilà, ils se sentent abandonnés, ils se sentent méprisés, ils se sentent regardés de haut. Et ça, il y a un truc qui va pas de la part des politiques. Et il faut absolument retrouver le chemin de la conversation et le chemin aussi bah, de donner des moyens à des gens voilà, qui sont exclus de plein de choses, et notamment aussi pour nous, je le dis, de la culture.
Ouais, et il n'y a pas de meilleur endroit finalement pour transposer tous ces acteurs-là de la société française, de la France d'aujourd'hui, dans un endroit où on est traité de la même manière, on est tous logés hein. À la même enseigne.
L'endroit des urgences, c'est un peu l'idée.
C'est l'hôpital, c'est l'urgence.
Ouais. C'est le rendez-vous de l'endroit où tout le monde est au même endroit, c'est-à-dire l'endroit où tout le monde est au même endroit. Non, mais la douleur, c'est-à-dire le besoin d'être soigné, le besoin d'être aidé.
Votre personnage, lui, s'est fait lacérer la jambe par un... Alors, on sait pas, une sorte de grenade, une grenade, et la jambe vraiment dans un sale état. Il souffre, lui aussi, au milieu de toute cette France réunie là, ce soir-là, qui souffre également. Il y a le personnage de Raph qui, elle, essaye, je me suis presque demandé si elle était pas tombée par, volontairement, ouais. En fait. Si elle s'est pas cassée, le bras volontairement
après,
pour retenir.
Ça, c'est peut-être l'inconscient.
Ouais, c'est moi qui travaille
pour
là-dessus.
Pour se faire soigner.
Ouais, pour être soigné, pour penser ses mots, mais en tout cas, tous les deux, n'auraient jamais pu se rencontrer, ces deux personnages, s'ils n'avaient pas fait ce passage-là aux urgences ce soir-là. Et ça commence pas vraiment dans une entente cordiale, puisque on se jauge, on se regarde, on hurle, on se considère pas dans
mais
un premier
c'est
temps.
C'est ça qui est assez délicieux et truculent dans ce film, c'est qu'il y a un endroit où, effectivement, les gens, au début, ils vont s'arracher la tronche, ils se disputent, ils sont pas ensemble, et après, il y a un endroit, effectivement, qui s'ouvre, où le débat et la parole existent, enfin, le droit d'exister, et on finit par discuter, en fait. C'est ça qui est assez fascinant, c'est que, et en plus, moi, dans le travail, enfin, c'est vrai qu'il y avait un truc, quand on est resté 2 mois et demi dans un sous-sol, avec la figuration, tous les jours il y avait un truc de travail collectif, un vrai truc d'équipe. Et effectivement, il y avait un truc un peu électrique, quoi. Électrique et explosif, comme ce qu'on ressent dans le film, quoi. Mmh. Et enfin, c'est une traversée, enfin, en tout cas, que j'ai vécu, qui m'a, qui m'a assez bouleversé, quoi, dans le sens où il y avait un sens de l'écriture et de la comédie que Catherine amène dans son écrit, enfin, dans ses textes. Et en même temps, il y avait un truc physique hyper intuitif de douleur, de ouais. violence, de trucs. Enfin, je sais pas comment. C'était votre assez bouillant.
Le personnage, en plus, ouais. ne veut pas prendre d'antidouleur.
Oui,
il,
c'est ça.
Il veut comme traverser aussi ce moment-là, parce qu'il veut reprendre son camion, déjà, mais aussi, on a l'impression qu'il veut affronter cette douleur, il ne veut pas être apaisé. Et de même qu'il ne veut pas être apaisé dans sa colère aussi, de la lutte qu'il mène.
Mais parce que je pense qu'elle est, il y a un endroit de la légitimité de la, enfin, la douleur, bien sûr. Mais je pense que symboliquement, ça raconte quelque chose de l'ordre de la survie, enfin, en tout cas. Et c'est très délicat parce que quand on est acteur, effectivement, moi je vis dans des conditions qui sont assez géniales. J'ai ouais. la chance de travailler, d'être payé pour faire mon travail. Mais c'est vrai qu'il y a un moment où effectivement, par convention, je sais que je joue un personnage, mais il y a quelque chose qui m'amène moi à un truc de vérité, d'humanité qu'on a rarement la possibilité d'explorer quand on est acteur.
Ce qui est bien, c'est qu'il y a aussi un transfert de cette violence, parce qu'au départ, tout le monde est violent à la fin. Tout le monde est violent.
Surtout Catherine Corsini, hein, je vous le dis.
Très violente, ça se voit.
Catherine, c'est la numéro une de la violence. Vous le dis, méfiez-vous de Catherine.
Au départ, tout le monde vient et concentré sur sa propre douleur, sur sa blessure, et après, la violence reste, mais il y a une espèce d'empathie, d'entraide. Une espèce de protection et d'entraide. Mais la violence reste, mais après, elle devient diffuse et elle devient une entraide. C'est ça qui est intéressant aussi dans le développement du film, je trouve.
Oui, ça a été vraiment une écriture en fait assez longue, parce que souvent les gens pensent que dans le film, parce qu'on est aux urgences, parce qu'il y a des vrais soignants qui font leur rôle, on a l'impression qu'on est dans un documentaire, et en fait tout ça est quand même extrêmement travaillé, tout ça est, comme le dit Pio, très très écrit pour que les dialogues fonctionnent, pour que les situations fassent mouche, pour qu'il y ait vraiment à la fois de la drôlerie et en même temps de la vérité. C'est ce mélange entre le travail, j'allais dire, des soignants et en même temps des acteurs qui proposent aussi des choses qui font qu'il y a un cadre, vraiment réaliste, mais qu'en même temps il y a une écriture, et que cette écriture, du coup, elle a la possibilité, j'allais dire, presque de s'envoler, parce qu'il y a un cadre vraiment très très précis, quoi. Et du coup, ça leur a donné je trouve que les acteurs, ils ont réussi à pouvoir s'appuyer sur des choses concrètes, sur des choses réelles, et ça leur donne beaucoup plus, j'allais dire presque, ils peuvent s'envoler, quoi. Ouais. Ils peuvent vraiment y aller, quoi.
Il y a un véritable élan dans vos deux personnages, que ce soit le vôtre, Pio, ou celui de Valéria. Il y a des scènes comme ça où on ne vous a jamais vu dans le jeu aussi, je sais pas, aussi exalté, aussi fou, aussi libre. En tout cas, c'est la sensation que ça m'a donné en le voyant. La Fracture, ça sera en salle ce mercredi, réalisé par Catherine Corsini avec Pio Marmaille. On a parlé de Marina Foïs, de Valéria Bruni-Tedeschi. J'aimerais qu'on revienne tout à l'heure sur Aïssatou Diallo Sania, qui m'a vraiment beaucoup plu dans ce film. Une sorte de comédie, qui est une comédie à la fois sociale, qui est une forme de film de guerre aussi, puisque tout prend place dans un hôpital en huis clos, un soir d'émeute à Paris, alors que les gilets jaunes grondent dans la rue et que les CRS les répriment violemment. Voilà le film qu'on vous recommande d'aller voir, mais tout de suite, c'est Marina Rollman.
Beaucoup de violence aussi.
Bonjour les amis. Marina. J'ai récemment pris la décision d'arrêter à chaque fois que j'ouvre la bouche de dire pardon, excusez-moi, je suis désolée, merci mille fois. Et étant à la fois suisse et une femme, j'ai donc gagné 4 nouvelles heures par semaine dont je ne sais que faire. Si on couple ça au fait que la nuit tombe de plus en plus vite et que novembre, le mois de toutes les déprimes, sera là dans une semaine, j'ai pensé qu'il était pertinent aujourd'hui de vous parler d'un super passe-temps zéro déchet et démocratique, la masturbation. La masturbation, mais déjà, qu'est-ce que c'est? Parce que j'en vois autour de la table, ils sont plus sûrs, mais la masturbation, c'est quoi déjà? C'est le truc des start-upers? Pas du tout, c'est eux, c'est la disruption, ça n'a rien à voir. Enfin, c'est la même famille, mais c'est moins. Non, la masturbation, alors selon Wikipédia, c'est, je cite, Unter Masturbation oder Nani oder Selbstbefriedigung wird eine überwiegend manuelle Stimulation der Regenene gleich. Organe verständlich in der Regel zum Orgasmus. Voilà. Donc là, je crois qu'on est tous d'accord. Voilà. Alors attention, je parle souvent de sexe. J'ai pas précisé quel Wikipédia.
Oui, c'est vrai.
Je parle souvent de sexualité à cette antenne. C'est pas pour essayer de me créer une espèce de personnalité. Hein. Il y a des gens comme ça, tu les connais à peine, tu leur as rien demandé. Dès qu'ils ont un demi gin tonic dans le cornet, ils sont là. Bon, c'est vrai qu'après, moi, je suis hyper branchée cul, quoi. Je suis sagittaire, hein, y a pas de secret. Je suis hyper branchée cul. C'est comme ça, hyper branchée cul. T'as envie de dire, on est. Écoute, tant qu'on n'a pas de relation intime ensemble, cette information est peu utile. Enfin, c'est pas méritoire en soi, tu vois. C'est pas, si tu le dis tout le temps, au bout de 10 ans, t'as le Nobel du cul. Enfin, tu vois, c'est comme te prendre en photo à côté d'une Lamborghini, tu vois. Ça parle, mais tant que j'ai pas fait un tour dedans, enfin, on va arrêter de s'agiter, quoi. Non. Si je parle autant de sexualité, c'est parce que c'est évidemment le terrain sur lequel se jouent beaucoup des questions d'égalité entre les gens. Parce que non contente d'être moins bien payée et moins représentée dans les instances dirigeantes, les femmes jouissent moins. Mmh. Voilà. Alors je dis les femmes, c'est évidemment les femmes cis hétérosexuelles qui ont nettement moins d'orgasmes pendant les rapports que toutes les autres groupes, femmes cis hétérosexuelles, groupe dont je fais partie, et auxquelles toutes les autres femmes disent mais vous êtes sûres? Parce que vous êtes les bienvenues. Hein. Enfin, je veux dire, nous on a vraiment bien réfléchi à la question et votre truc c'est vraiment pas optimal. Et nous on est là, là. Or, pour une fois, j'ai pas chargé les hommes. On jouit moins, notamment parce qu'on se connaît moins. Voilà, c'est pas la faute des gars. Les statistiques le prouvent, on connaît moins bien notre anatomie et on se tripote moins que les mecs. Voilà. Donc forcément, si on se connaît pas, on peut pas arriver vers des gens qui sont pas équipés pareil et être là, bon alors, tu sais pas exactement ce que je veux et je ne sais pas exactement ce que je veux, mais en avant la musique, tu vois, ça n'a pas de sens. C'est comme si, vous savez, ces restos dans le noir, où il n'y a pas de lumière là où tu manges. Bah, c'est comme si dans ces restos, en cuisine aussi, ils étaient dans le noir, tu vois. T'entendrais des gens qui crient, qui se brûlent, ce serait pas bon, ce serait cher pour rien, à la fin personne serait vraiment content. En somme, une relation hétérosexuelle non déconstruite. C'est pourquoi je crois qu'à moins que vous soyez asexuelle, toutes les femmes devraient apprendre à jouir. Et pas uniquement par égoïsme, en vrai c'est hyper altruiste. Parce que le sexe, quand c'est pas réciproque, c'est pas drôle pour nous, mais c'est pas génial pour eux non plus, tu vois. Supposément, un éternuement, c'est un sixième d'orgasme.
Ah bon ?
Ça veut dire que si un partenaire jouit pendant un rapport et l'autre non, c'est comme si un mec faisait... C'était bien pour toi aussi. Et puis vraiment, si c'est pour pas jouer, il y a plein d'autres trucs plus marrants à faire, quoi. Je sais pas, de la varap, des gyoza, la céramique, du surf. Et pourtant, aussi insatisfaisant que ce soit pour certaines, le monde tourne autour du sexe et du fait de réussir à entrer en relation avec d'autres corps. Or, si un grand nombre de femmes cis-hétéros ne jouissent pas, forcément, il y a incompréhension dans les termes de base de la drague, tu vois. Moi, ça m'a toujours frappé à quel point il y a une vibe un peu pédophile menteur chez les mecs hétéros de base quand ils draguent, tu vois. On nous prend pour des buses. Ça nous flatte sur des trucs absurdes, ça ment comme c'est pas possible, ça fait des projets qu'ils voient jamais le jour. Bah, pas chez moi, on pourrait regarder un film. Il n'y a jamais de film. Et moi, ça me va super qu'il n'y ait pas de film, parce qu'en l'occurrence, je veux la même chose que la personne en face. Mais alors, pourquoi on ne peut pas se parler comme des adultes qui se disent les choses? Tu me plais, j'ai envie de toi, ça te dit. C'est un rapport franc, égalitaire, tu vois, où personne n'est traité comme un gosse et où on n'a pas honte d'avoir envie de trucs chouettes. C'est vachement plus érotique. Waouh, je pourrais t'écouter parler des heures tellement différentes, pendant que dans ta tête, il y a un babouin lubrique qui tape sur des casseroles en hurlant baiser. Mais forcément, le côté drague qui parle d'un truc alors qu'on en veut un autre, c'est légitime à partir du moment où tu évolues dans un monde où il y a plein de nanas pour lesquelles le sexe c'est pas chouette. Et qu'en plus on vit encore dans une culture où accumuler les partenaires ça fait théoriquement baisser ta cote. Les femmes c'est encore un peu une espèce de jouet de collection. Tiens, il faut les laisser tout le plastique, il faut pas les étouffer, tu vois. Dans ce contexte, forcément, la perspective de voir les affranchis c'est plus sympa que d'avoir quelqu'un qui te transpire dessus pendant 22 minutes. Homme qui, s'il ne devient pas le père des deux enfants, a fait baisser le cours de ton action sur le marché de la monogamie. Donc, mesdames, cet hiver, touchez-vous, explorez-vous, matez-vous, regardez des tutos, demandez des conseils, ambiancez-vous. Après, pas de pression, hein, pas d'obligation de rendement, de performance, mais il faut dire ce qui est. Plus vous apprendrez à prendre votre pied, plus vous aurez envie de ken, moins on sera tous obligés de se mentir, plus on sera heureux, et ça au seuil de l'hiver, c'est quand même une perspective plus sympa qu'une dépression saisonnière.
Voilà. Bravo Marina. Et on se retrouve sur scène à l'Olympia.
Les 16, 17 et 18 décembre.
Oui, et on a hâte. Parlez-vous, enfin, mais parlez-vous aussi dans le film de Catherine Corsini. Parlez-vous, et comment avez-vous réussi, Catherine, à mettre en scène ce film? Je le disais, c'est un film sous tension, où on est, je pense notamment à la dernière demi-heure du film, où tout d'un coup, tout est bouleversé, on ne sait pas où ça peut mener. Il y a de vrais soignants. On a évoqué Aissatou ou Diallo Sagna, qui incarne ce personnage de Kim, qui est une tendresse folle, qui prend le temps de caresser la main des patients à plusieurs reprises, qui est vraiment une forme de bonté incarnée, un sacrifice aussi au quotidien. Comment est-ce que vous avez réussi à les mettre en tension comme ça tous ensemble?
Alors là, c'est la magie d'avoir réuni ce casting qui a si bien fonctionné. Ça, c'est, je sais pas, c'est tout.
Ça semble vous surprendre, vous aussi.
Bah oui, on sait pas. Parce qu'en plus, comme on sortait du confinement, tout le monde avait des films on est arrivé, j'allais dire, sur ce plateau. Presque, voilà, on a fait connaissance et on s'est retrouvés comme on se retrouve aux urgences tout d'un coup, tout le monde ensemble. Et c'était la même situation. Ils s'étaient quasiment jamais rencontrés tous avant, quoi. Donc c'était un challenge, c'est-à-dire tous les jours, effectivement, comme dit Pio, j'étais dans une espèce d'état moi-même de tension, presque de hurlement, parce que je me disais, il y en a quand même. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a une actrice qui est allongée tout le temps, Valéria, et un acteur qui est sur une chaise roulante tout le temps. Donc, pour arriver à trouver du mouvement, même si sur une chaise roulante, on peut faire des cabrioles, mais quand on est blessé, on n'en fait pas beaucoup. Donc, c'est quand même pas évident, quoi. Donc,
et puis, ils attendent en plus.
Voilà, et ils attendent. Et en plus, le film est bavard. Ouais. Et vous me dites qu'on s'ennuie pas. Je me dis bravo. Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai mis une espèce de, je sais pas, je les ai mis des aiguilles dans la tête, je les ai poussées, je les ai bousculées, j'ai essayé de créer du mouvement autour,
Qu'est-ce qu'elle vous a fait, Pio? Vous pouvez tout dire maintenant.
Dans le travail, Catherine?
Ouais. Pour vous mettre en tension, tous comme ça.
C'est une réponse qui est honnête, et une réponse qui est un peu prévue pour l'événement.
Alors, l'honnêteté.
Non, mais concrètement, c'est très simple, en fait. C'est qu'il y a un moment, effectivement, quand on travaille deux mois ensemble, il y a des jours, effectivement, on n'a pas forcément l'énergie pour repartir dans cette dynamique-là de survie, de tension. Et il faut une personne comme Catherine qui soit un peu survoltée aussi, qui tienne un peu la baraque. Parce qu'à un moment, on peut rentrer dans un moment de tranquillité. Enfin, un film avance tout seul, il va se faire, quoi qu'il arrive. Et c'est vrai que travailler avec Catherine, c'est quelqu'un qui, en permanence, nous met, en tout cas, les acteurs, les figurants, l'équipe technique, dans un endroit où...
Nécessité. Mais comment elle fait pour vous mettre dans un endroit de nécessité?
Ça passe par le cri. Ça passe par le cri.
La méthode du cri.
C'est une espèce de tension, c'est-à-dire tout d'un coup, allez, cette scène-là, on va la réussir ensemble.
Il faut, on arrive,
il y a une tension, on prend la scène du début à la fin, on la déplie, on la recommence, on ne la laisse même pas respirer, on recommence la scène en plein milieu, à un autre endroit, etc. On essaye tout le temps de les déstabiliser et même de les bouger de place, ce qu'on fait jamais dans le cinéma, parce qu'on dit ah mais on n'est pas raccord, je dis on s'en fout, etc. Pour justement que tout d'un coup tout le monde se demande ce qui se passe, et puis tout d'un coup la caméra on va chercher un quelque chose, c'est-à-dire que tout le monde dit attention t'es filmé, mais qu'est-ce que tu voilà,
bah, c'était intranquille quoi.
Il faut chercher la
nécessité
mais c'était pas épuisant.
Oui, après, ouais. Bon, c'est notre travail, hein. Ouais. Sinon, on bosse pas.
Enfin, bah, c'est en radio, sinon.
Non, mais c'est vrai. Il y a quelque chose de, enfin, moi, j'ai besoin de vivre aussi quand je suis acteur, d'être dans un endroit d'inconfort. Parce que sinon, il y a rien qui avance, quoi. Enfin, en tout cas, effectivement, on n'est pas autour d'une table en train de parler de l'héritage de la grand-mère. Ouais. Enfin, là, il y a un truc qui est
nécessaire. Mais en tout cas, nous, on le ressent, cette furie, ce chaos, on se demande ce qui va se passer.
Le film, c'est ce qu'il est.
Il est fatigant aussi.
Il est éprouvant. Et en même temps, il y a une drôlerie, il y a un truc jubilatoire dans la langue, parce que Catherine, effectivement, tu l'as dit, c'est un film qui est très écrit, et moi j'ai besoin, enfin en tout cas les acteurs aussi, je pense qu'ils ont besoin d'une langue qui est pointue, qui est technique, parce que le rythme de la comédie, c'est un truc qui se travaille, qui a besoin d'être parfaitement écrit, pas improvisé, et il y a un truc qui est délicieux quand on est acteur, de se dire, ah ben voilà, effectivement, c'est la scène est rentrée, ben Catherine elle te dit, eh ben hop, on recommence, on part ailleurs.
Vous avez tourné la caméra à l'épaule, c'est ça?
On était à l'épaule parce que ça crée un tout petit peu justement plus de presque de fébrilité, ça donne un tout petit peu de voilà, c'est moins posé, c'est moins voilà, et puis on peut aller chercher beaucoup plus vite peut-être voilà un événement, quelque chose qui se passe que je vais faire intervenir un autre acteur à un moment qui est pas prévu, enfin des petites choses comme ça qui sont des choses un peu délicieuses et qui peuvent provoquer ou tout d'un coup un figurant qui va dire une phrase qui était pas prévue parce que je le mets aussi je l'introduis dans la scène et hop les acteurs jouent avec, etc. Donc c'est ça qui crée tout le temps quelque chose de, et puis je les reprends, c'est-à-dire ils sont bons, de toute façon ils sont bons, Pio, il est bon, il arrive, il est bon, il sait, mais j'essaye de qu'ils soient encore meilleurs, donc je lui dis allez, j'y crois pas assez, allez, cette candeur, cette naïveté, cette
voilà, allez Pio, mais joue quelque chose, mais investis-toi, c'est nul. Pas tout le temps évidemment, non, mais c'est vrai qu'il y avait un truc,
c'était vraiment pour tout le temps essayer de les titiller, pour se dire allez, on peut encore progresser, on peut encore être mieux, on peut encore être voilà. Et de toute façon, les acteurs, ce qu'ils ont envie, c'est d'être exceptionnel, c'est de trouver quelque chose au fond d'eux. Et ils ont ce talent-là, mais c'est tout d'un coup d'aller vers l'excellence, quoi. Et d'aller vers l'excellence, enfin, qui, moi, me paraît l'excellence, dans tous les cas, et puis qui nous paraît aussi à nous.
Quand même fort, vous avez trop d'excuses pour engueuler les gens, hein.
Bravo. Et puis, vous mouillez, finalement, puisqu'en racontant une part de votre histoire dans le personnage de Valeria Bonitedeschi aussi, vous mettez dans l'histoire. Bah, vous aussi.
Cette manière de me mettre dans l'histoire me permet de pouvoir parler de la société de mon point de vue. Sinon, je trouve que j'aurais été une donneuse de leçons, que j'aurais fait une espèce de film un peu pensum en disant bah ça c'est bien, ça c'est pas bien.
Non, mais ce qui est intéressant, c'est un film politique, mais c'est pas un film qui est militant. En tout cas, on sort pas de ce film en se disant qui a raison, qui a tort, on doit penser comme ça. On nous donne pas de, il y a pas de morale et ça fait du bien en fait.
Oui, enfin il y a
la morale individuelle,
il y a une morale quand même, mais il y a pas de jugement, ouais. et il y a pas justement, on est dans un film qui amène à réfléchir ou qui amène dans tous les cas à donner, j'allais dire, une incarnation à tous ces gens qui, parfois, on voit des images à la télévision, par exemple des manifs, etc. On voit des masses de gens, on voit des gens qui, justement, alors là, qui hurlent, etc. Mais on ne voit pas des représentants de voilà, on ne connaît pas les personnes. Et là, ce qui était intéressant, c'était justement d'être du côté d'une soignante, d'un gilet jaune, ouais, d'une femme un peu bobo et un peu, j'allais dire, voilà, dont on a aussi des idées préconçues, etc. C'était, voilà, c'était cette façon de faire rouler ensemble tous ces gens, quoi.
La fracture en salle ce mercredi, réalisée par Catherine Corsini avec Pio Marmaille, où on vous plonge au sein d'un service d'urgence sous tension, dans une France sous pression, où la tension monte. Que va-t-il donc se passer? La nuit va être longue, en tout cas, mais on va pouvoir rencontrer ces personnages, ce personnel hospitalier débordé, et ces Français qui ne s'entendent plus, qui ne se parlent plus. On va se promener dans la bande originale de votre vie. On vous a demandé de choisir de la musique pour illustrer certaines années. On commence avec vous, Catherine, deuxième moitié des années 80, vous écoutiez. En fait, vous êtes deux furieux, là. Ouais. On le savait pour Pio Marmaille, mais on vous découvre, Catherine, c'est la première fois que vous venez dans la bande originale. Vous êtes aussi une furieuse, en fait, à votre façon. Vous écoutiez Eurythmics, Catherine. Tout ça pour évoquer, dans la deuxième moitié des années 80, votre premier long métrage, Poker, avec Caroline Cellier. Un film qui part un peu de votre expérience, puisque vous étiez joueuse de poker.
J'étais la seule femme qui jouait autour de table, où il y avait que des mecs qui avaient 30 ans de plus que moi et qui m'ont plumé.
Voilà, quelle soirée ça devait être.
Vous avez joué au poker avec Catherine? Pio, vous avez joué au poker avec Catherine ou pas? Vous êtes plumé par Catherine?
Non, en revanche, j'étais au courant de cette partie de ta vie, Catherine, mais que je redécouvre avec Eurythmics avec un plaisir non dissimulé.
Et vous parlez de ce film dans les interviews en disant que c'est un film qui prenait donc part de votre histoire personnelle, votre rapport au poker, mais qu'il aurait dû être encore plus personnel, et que finalement c'est une sorte de premier échec qui a été hyper salvateur pour la suite.
Et ouais. Dans ma vie, j'ai eu beaucoup d'échecs. C'est ça.
Comme nous tous, non?
Ah ouais. Moi, je pense que dans la carrière d'un réalisateur, il y a autant d'échecs que de succès. Ouais. C'est ça qui fait qu'on avance, et voilà, on boitille, on avance, on recommence, on remonte sur le ring.
Et quelle leçon, du coup, tirer de ce premier échec?
Bah, que justement, je m'étais fait imposer trop de gens. C'est-à-dire que j'avais un producteur qui m'avait imposé une équipe technique. Je me sentais pas assez libre. Il y avait quelque chose où j'étais un peu coincé. J'étais trop docile, malgré mon caractère comme ça, qui a l'air un peu impétueux. Et je me suis trop laissé faire. Donc après, à partir de là, je me suis dit, maintenant, c'est moi qui choisis tout le monde. C'est moi qui, voilà, je veux pas me... Et puis voilà, puis peut-être que j'avais la chance de faire un film, ce qui était quand même rare dans ces années-là pour une femme. Donc j'avais la chance de faire un film, mais j'avais aussi j'étais peut-être trop respectueuse, et je m'étais dit, bon, on me permet de faire un film, mais j'avançais un petit peu, je rentrais par la petite porte et j'osais pas, quoi. Maintenant, c'est fini tout ça.
Oui, j'ai cru comprendre que c'était
avant.
Ouais, voilà. On dit pas, excusez-moi, pardon, je passe direct.
Voilà, c'était un peu non, mais c'était pas si évident que ça, faire des films, mais voilà, j'avais peut-être pas aussi le courage, ou dans tous les cas, voilà, je me suis trop j'ai trop baissé les chines, j'ai trop, comment dire, baissé la tête,
courbé les chines. Et même sur le sujet, la façon de le raconter, là aussi vous vous êtes senti un petit peu, quoi, dirigé ou pas complètement libre?
Bah ouais, pareil, j'étais un peu les gens trouvaient que c'était bien de faire un film de genre, et du coup je me suis trop cachée dans les personnages, j'étais pas assez voilà, mais bon, voilà, j'ai appris, hein. Et puis en plus le film, je l'ai tourné très vite, j'avais pas beaucoup de temps de tournage, c'est pareil, j'ai pas réussi aussi à imposer le fait que je voulais plus de temps, que voilà, je voulais travailler avec des gens de ma génération, donc on m'avait mis un peu des espèces de, voilà, de techniciens de cinéma, voilà, parce que moi j'étais jeune, et on se disait que qu'il fallait m'encadrer, quoi. Donc voilà.
Fausse bonne idée. Dans ces mêmes années, Pio Marmaille, vous écoutiez Monsieur.
Alors attendez, donc début des années 80, moi j'avais 2 ans.
Et alors?
Ça va, hein.
Non, attends, attends. Non, mais je faisais référence là, comme j'ai grandi à l'opéra avec mes parents. Donc peut-être que ce sont des airs que j'ai pu entendre à des moments.
Dans le ventre de ta
la
mère.
La sœur Férus, hein?
Dans le ventre de ta mère.
Dans le ventre de ma mère, et après je me faisais chier au général. Enfin, quand t'as 6 ans, t'as pas forcément te taper 4 heures de Wagner. Mais en tous les cas, c'est des choses qui m'ont un peu. formés, je pense, qui ont fait que je suis devenu acteur après.
Votre mère, Cathy, était chef costumière à l'Opéra de Strasbourg. Votre père, Enzo, scénographe. On a déjà évoqué ensemble vos débuts sur scène. Quel genre d'enfant?
Quand j'étais un petit angelot, là.
Ouais, le petit angelot.
Oui, mes parents m'avaient me demandé de... Enfin, je faisais de la figuration à l'opéra. Et j'ai toujours, enfin, très tôt, donc j'ai toujours ce souvenir un peu, enfin, de rapport, en tout cas, scène-salle, enfin, en tout cas, le rapport, le fait d'être observé. Mm. C'est vrai que c'est un truc, j'y réfléchis en tant que j'en parle. D'être observé, de jouer, de m'amuser avec des partenaires. Ça, c'est un truc qu'on m'a très vite inculqué, enfin, le plaisir de
ça
travailler.
Ça vous plaisait, ouais.
Oui, mais ça a toujours été très ludique, en fait. Ouais. Hein. Ça n'a jamais été centré sur mon ressenti propre d'individu, mais un truc de collectif, de partage, quoi. Et peut-être que mes parents, ils m'ont beaucoup aidé là-dedans.
Encouragé.
Ils m'ont poussé à bout.
Ouais. Jusqu'au point d'accepter, d'ailleurs.
Et joue, amuse-toi.
Amuse-toi.
Alors, justement, il vous disait de jouer à tout, sauf à être au CRS.
Alors, c'est vrai, en fait, j'avais dit à mes parents que je voulais être CRS pour les faire chier. La question, c'est pas est-ce que je vais être CRS. Mais je sais pas pourquoi il y avait un truc, comme j'étais dans une famille, effectivement, qui était en lien avec la culture, permanent, il y avait toujours des metteurs en scène, des danseurs, des chanteurs qui venaient à la maison. Moi, je sais pas, dans cette espèce de micro-crise d'ado, je voulais les faire chier, je leur ai dit, écoutez, moi, je vais être CRS. alors que fondamentalement, enfin, j'aurais pu l'être, c'est pas la question. CRS, c'est bien ou pas bien, c'est pas le problème. Mais j'avais envie de les titiller là-dessus.
C'est marrant comme phrase de rébellion, je vais être CRS.
Ouais, mais c'est le seul truc qui me restait.
On fait un saut dans le temps, on passe en 2018, Sylvain. S'il vous plaît. C'est pas la bonne musique, mais ça va venir après, puisqu'on va parler avec vous, Catherine, de l'adaptation du roman de Christine Angot, Un amour impossible. Entre-temps, il y a eu bien sûr d'autres films dont on aurait pu parler, mais moi, c'est un film qui m'a beaucoup plu, c'est un livre aussi qui m'a marqué. Se lancer dans l'adaptation de Christine Angot et de ce récit-là, et de choisir en plus comme incarnation une Virginie Efira assez parfaite dans le rôle. Comment ça s'est passé, toute cette histoire ?
Ah bah là, encore une fois, c'est ma productrice et ma compagne qui m'a fait lire le livre de Christine Angot en me disant « Je sens que c'est un livre qui va te bouleverser et je pense qu'il y a quelque chose à faire avec pour le cinéma. » Et quand je l'ai lu, elle a raison, j'ai été transportée. Il y a cette espèce d'écriture qui est tellement précise chez Angot, qui est au scalpel, qui vous transperce et qui, voilà... Il y a quelque chose de, je sais pas, c'est une, enfin voilà, mais après, aujourd'hui, je me dis, mais quelle folie de s'emparer d'un livre pareil. Mais c'est parce qu'il faisait aussi écho à beaucoup de choses de ma génération par rapport à ces femmes qui ont enduré aussi beaucoup de choses, par rapport à des relations avec des hommes qui les ont ou laissé tomber ou abandonné, qui les ont trahis. Et là, qui, évidemment, c'est le summum de l'horreur, c'est-à-dire l'abus de l'enfant, quoi. Donc il y avait quelque chose que je trouvais très important de donner aussi un visage à cette mère et à cette histoire, quoi. Et donc l'écriture, c'était très étrange parce qu'avec ma scénariste Laurette Paulmans, qui voulait vraiment qu'on fasse un séquencier, moi je me suis dit, faut s'emparer du livre, faut rentrer dans le livre, faut en prendre ce que je percevais comme le plus important, le plus fort, voilà. On a découpé le livre en travaillant la matière. Faut être comme au montage. Faut déjà choisir tel passage, telle chose, etc. Et puis en même temps, c'est un film tellement différent de La Fracture. C'est un film qui est sur le temps. C'est un film qui déplie du temps. Ouais. On part des années 50 jusqu'à quasiment aujourd'hui. Donc on est tout le temps dans quelque chose qui se... Voilà comment on arrive à raconter la vie de quelqu'un, comment tout ce qu'elle traverse, la bouleverse, la chamboule, la marque, comment les rapports, le non-dit aussi de cette femme, le fait qu'elle à un moment, quand sa fille lui avoue, voilà, l'inceste, et qu'elle ferme les écoutilles et qu'elle continue, qu'elle ne peut pas entendre, c'est à la fois extrêmement humain, extrêmement bouleversant, extrêmement fort, et c'est en même temps terrible pour l'enfant, Et c'est toutes ces incompréhensions qui font aussi qu'on est, voilà, qu'on est ce qu'on est, quoi. Je trouve que voilà, c'est un roman admirable et celui qu'elle a écrit là aujourd'hui aussi, Le Voyage à l'Est, c'est pareil, c'est quelque chose de, c'est encore comme un diamant, et c'est encore une parcelle de ce diamant qu'on découvre dans ce dernier roman, qui est absolument incroyable.
Et elle vous a témoigné une grande confiance en vous laissant justement adapter ce livre avec ce récit si personnel.
Ah oui, elle m'a fait confiance, c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout travaillé ensemble, et moi je voulais pas, parce que elle a un regard tellement puissant qu'il faut, il fallait pouvoir me laisser moi avoir ma propre vision du film, sinon voilà.
On continue de parler de la fracture qui est en salle mercredi, film de Catherine Corsini avec Pio Marmaille, et puis on accueille Jean-Jérôme Bertolus. Bonjour Jean-Jérôme.
Bonjour.
Vous êtes le chef du service politique au sein de la rédaction de France Info. On vous a fait venir à ce micro pour évoquer justement cette fracture dans la société française dont il est question dans le film de Catherine. Depuis les Gilets jaunes, il y a bel et bien une fracture dans la société française?
Oui, enfin, je dirais pas une, hein, de multiples fractures. Il y a quelques temps, quelques mois peut-être, il y a eu un bouquin qui a eu un certain succès qui s'appelait L'archipel français. Et c'est pas faux, en fait, ça décrit le fait que maintenant les Français, ils vivent un petit peu dans des petites communautés, c'est un petit peu du chacun pour soi. Donc dans votre film, Catherine Corsini, c'est vrai qu'on voit un gilet jaune. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est qu'il est incarné. C'est-à-dire qu'on a vu beaucoup de manifs de gilets jaunes, on a, quand il y a eu des élections, tenter d'interviewer des leaders, mais c'était un mouvement très particulier. Il n'y avait pas de leader.
Il n'y a pas de porte-parole officielle.
Ouais. C'est ça aussi qui crée une rupture politique. Hein. C'est qu'on a un mouvement massif, des gens qui ont envie de se parler entre eux, qui vont sur les ronds-points. Donc il y a une certaine humanité. Ils sont des centaines de milliers. C'est massivement soutenu par les Français. Au début, les sondages le montrent. Ça n'a pas disparu. Les gens sont rentrés chez eux. Mais c'était d'une telle puissance, ce mouvement, que ça n'a pas disparu. Mais c'est vrai qu'au début, on a beaucoup montré de manif, beaucoup montré la violence, et assez peu les gilets jaunes. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on vous voit aux urgences. Vous êtes un gilet jaune, vous avez été blessé, mais vous n'étiez pas forcément dans une violence. Mais voilà. Donc, les gilets...
Oui, vous voulez discuter. C'est justement ce dont il est question dans le film. C'est deux France qui ne se parlent plus.
Je crois que c'est des multiples France.
Ou qui ont du mal à se parler.
Ouais.
C'est encore vrai aujourd'hui, c'est encore
mais
vrai.
Oui, parce que franchement, qu'est-ce que c'était les gilets jaunes? C'était, on habitait, il y a ceux qui habitent aujourd'hui en France dans les métropoles et qui pensent quoi? Qui pensent urbains, on va dire, qui voyagent à l'étranger. Et puis il y a ceux, les gilets jaunes, mais pas seulement, les premiers de corvée, ce qu'on a appelé les premiers de corvée pendant le confinement, qui vivent en périphérie, où souvent il n'y a plus de services publics, où souvent il y a moins d'écoles, où souvent c'est des déserts médicaux, où souvent il n'y a pas d'emploi durable. Quand je dis pas d'emploi durable, c'est il y a de plus en plus d'emplois de service, ou de plus en plus d'emplois où vous êtes coursier, etc. Donc oui, il y a plusieurs France. Ça me paraît complètement
mais
évident.
On a l'impression, dans le film, en tout cas, il faut une situation exceptionnelle pour que c'est au moins ces deux France-là, qui ne sont pas la totalité de la France, se rencontrent et éventuellement discutent. Est-ce que c'est ces deux France-là qui sont représentées, ou cette multiplicité de France, ils ont des colères communes, ils ont des douleurs communes? On a la sensation qu'on est parfois étranger à ce qui se passe dans la vie de l'autre.
Oui, je pense que ça s'est accru hein, ces dernières années ou ces dernières décennies. Avant, je ne vais pas jouer mon vieux tromblon, mais il y avait des liens de... Le service militaire, par exemple, même si beaucoup de gens plus privilégiés se faisaient exempter, ou voilà.
Ils choisissaient un peu les endroits où ils étaient affectés aussi.
Voilà. Ouais. Oui, mais il y avait quand même ce système de brassage. Il y avait quand même de permettre à certains, par exemple, aussi de passer leur permis de conduire. Aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de passerelle. C'est-à-dire, c'est clair que quand à Paris, vous voyez, le prix du mètre carré est à 15 000 euros, et que quand on s'arrange, quand les Parisiens s'arrangent avec ce prix de 15 000 euros, combien de Parisiens ont été ces derniers mois ou ces dernières années en Seine-Saint-Denis? Pas nombreux, à mon avis. Donc oui, je pense que les France se parlent de moins en moins aujourd'hui.
Est-ce qu'il y a des exemples similaires à ces mouvements de gilets jaunes en dehors de la France?
Oui, enfin, alors après, ça dépend de la traduction politique dont on parle. Quelquefois, ces mouvements, effectivement, de gens qui estiment que, à la fois, ils vivent une vie trop déshumanisée et qu'ils n'ont plus grand-chose à perdre, ça s'est prolongé dans le populisme. Et puis on voit que bah, ça s'est prolongé par exemple dans le populisme en Italie. Puis aujourd'hui, il y a un reflux de ce populisme. On en revient à une gauche plus classique. En France, le risque, c'est que cette France fasse un peu... Cette France de ce qu'a pu être les gilets jaunes, de ceux qui ne se sentent plus pris en compte, fasse sécession, pas forcément dans le populisme, mais dans l'abstention. Et le grand risque de cette présidentielle 2022, c'est une abstention massive. Et ça serait un message politique un petit peu désespérant.
Merci Jean-Jérôme Bertolus pour ce constat. On va s'arrêter là-dessus. Merci d'avoir été avec nous.
J'ai un peu été conditionnel.
Merci beaucoup Jean-Jérôme d'avoir été avec nous pour parler de la fracture et de cette France divisée. Tenez donc, Tanguy Pastureau est avec nous.
Tenez donc.
On va parler de quoi tout à l'heure?
Eh bien, je vais vous parler des livres de ministres. Tous les ministres actuellement sortent leurs livres, mais bon, ça se vend moins bien que Poppers à l'abbaye de Sénanque.
Mais avant ça, on va quand même parler avec toi, Daniel Pastureau.
Ouais,
du héros du jour, Daniel Morin.
Le héros du jour, bien sûr. Alors sachez que mon héros du jour aurait très bien pu être une héroïne. Oui, Lara Croft, qui fête aujourd'hui ses 25 ans, aurait pu entrer au panthéon de mes héros. Oui, Lara Croft, aventurière, qui provoque l'admiration des petites filles qui se sont rêvées un jour femmes d'action, avec un goût prononcé pour la baston et l'humiliation des hommes. Non, Lara Croft n'est pas mon héroïne du jour. Non, mon héros est un entrepreneur qui a récemment, on vient de lui briser les ailes. Petit paysan, devenu capitaine d'industrie, et oui, ça ne plaît pas à tout le monde, du coup on a eu sa peau. Il est aujourd'hui en prison. Cet homme, qui a l'aventure entrepreneuriale vissée au corps, est un homme discret. Oui, discret au point de prendre un pseudo, de se faire appeler Otoniel. Otoniel était tout simplement le plus grand trafiquant de drogue en exercice en Colombie. Une réussite incroyable pour cet homme parti de nulle part et qui, à force de travail, de talent et d'investissement malin dans la diversification verticale de son activité, avait réussi sa vie. Antonio Suga, de son vrai nom, a été arrêté avant-hier. Alors oui, c'était le narcotrafiquant le plus recherché, mais n'a-t-on pas le droit de fonder un petit commerce? N'a-t-on pas le droit d'être prospère? Il avait fait son petit bonhomme de chemin. Il avait mis un toit sur la tête de sa famille. Il avait mis de la soupe dans l'assiette de ses enfants. Il avait pris soin de ses vieux parents. Cet homme, ce pauvre Antoniel, est une victime du système. Oui, parfaitement, une victime de ce bon vieux principe de l'offre et de la demande. Et Antoniel a eu la faiblesse d'y souscrire. Mais oui. Les gens veulent de la schnouf. Alors il fait quoi, Antoniel? Ben, il se dit, s'ils en veulent, on va leur en donner. Du coup, il s'organise, plantation, récolte, transformation, distribution. Tout le monde était content, mais ah, voilà, la justice des hommes est passée par là. Trop de succès, Antoniel, trop de réussite. Du coup, on brandit la table des lois. La drogue, tu ne toucheras pas dans ton pif, rien, tu ne mettras du tabac, simplement tu fumeras. Antoniel est une victime. Du coup, j'en appelle à Alain Griset, le ministre délégué au petit commerce et à l'artisanat. Monsieur le ministre, un homme comme vous les aimez, un homme parti de rien pour arriver au sommet, vient de se faire emprisonner injustement en Colombie. Vous, mieux que quiconque, puisque vous venez de vous faire rappeler à l'ordre pour avoir oublié 171 000 euros dans votre déclaration de patrimoine, vous savez qu'on peut être un homme honnête quand pourtant tout vous accable. Je vous demande donc d'user de tout votre pouvoir pour faire installer un bureau, dans votre bureau, un tableau d'Otoniel, et même à l'entrée de votre ministère. Mon héros du jour n'est autre qu'un petit artisan qui avait pris son envol et à qui on a coupé les ailes.
Merci Daniel. Voilà. Merci Daniel. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on dise de votre film, Catherine Corsini? Parce que je vais devoir vous libérer. Vous avez un autre rendez-vous radiophonique, mais on va garder Pio Marmaille en otage.
Gardez-le bien.
Ouais.
Qu'est-ce que j'aimerais qu'on dise de mon film? J'aimerais qu'on aille le voir. J'aimerais que le public revienne dans les salles. Voilà, j'aimerais que les gens rient et soient émus. Parce que voilà, le film, voilà, j'aime quand au cinéma, on peut passer par plusieurs émotions. Et j'aime, voilà... Bah, on aime tous que les gens sortent d'un film que vous avez fait avec, j'allais dire, avec l'envie de dire à tout le monde, c'est formidable, courez-y, allez-y, voilà.
Il prend une place particulière dans votre filmographie, j'ai l'impression, La Fracture.
Bah, parce que c'est peut-être le premier film où déjà j'ose me montrer en couple avec une femme. Et puis c'est aussi un film où j'ai réuni à la fois, comme vous dites, des non-acteurs, mais qui sont des vrais professionnels et des acteurs. Et puis parce que, voilà, faire un film, j'allais dire, qui en même temps, comme on dit, un film choral, mais un film où chacun a une espèce de place hyper importante... Et où chacun pense qu'il est le héros du film, c'est assez jouissif. Et puis d'avoir réuni ces acteurs que je trouve, enfin, il n'y a pas un acteur, il n'y a pas une personne que je trouve pas bien dans le film. Donc ça, c'est un sentiment de vraiment très agréable, quoi.
Eh bien, on continue d'en parler jusqu'à midi et demi avec Pio Marmaille et Oliver, Catherine Corsini. Merci à
Pio.
Merci, mon éternel. Et c'est le retour de la bande originale. Soyez à nouveau les bienvenus avec Morgane Cadignan, Marina Rollman, Tanguy Pastureau, Daniel Morin. Et nous reste un invité, un seul, l'unique. C'est Pio Marmaille.
On a invité en captivité.
On a gardé Pio Marmaille avec nous. On a laissé Catherine Corsini.
Elle était furieuse, elle a claqué la porte.
Vers d'autres aventures. Elle était furieuse de cet accueil réservé parce que on a trop aimé ce film et elle n'était pas prête à entendre autant de louanges de notre part. Pio Marmaille, La Fracture, ce sera en salle ce mercredi, le 27 octobre. Un film qui met en scène une France qui gronde, une France qui va mal. Ça, c'est dehors, dans les rues, avec le mouvement des Gilets jaunes, qui nous fait retraverser cette période qui n'est sans doute pas terminée. Et puis, le malaise aussi qui existe au sein de l'hôpital public, la difficulté à s'occuper des patients, les soignants qui sont complètement débordés, qui font le métier du brancardier, qui font tous les métiers, tout ce qu'ils peuvent faire en tout cas pour venir au secours des patients présents. Et puis on a un couple qui est en pleine fracture, en pleine rupture, incarné par Valéria Bruni-Tedeschi et Marina Foïs. Et vous, ce personnage du routier, du chauffeur grande gueule qui s'est fait blesser lors d'une manifestation alors qu'il ne voulait que parler avec un petit peu de provoque aussi au CRS, et les sommations ont défilé et il a été blessé, et voilà pourquoi il se retrouve à l'hôpital. C'est une France divisée, et puis c'est une France aussi qui est divisée par ses opinions. C'est le choc des opinions, c'est ce qui se passe au sein de cet hôpital, Pio Marmaille.
Tout à fait. Après, je pense que l'idée aussi du film, enfin moi ce qui me parle en fait quand je le vois, quand je travaille dedans, c'est en fait l'endroit de la parole, c'est simplement ça interroge ça. C'est-à-dire le moment où effectivement malgré un endroit de distance et d'opposition sociale ou politique, il y a un moment où on se donne la possibilité humainement, collectivement de se parler. Ouais. Et c'est vrai que c'est assez rare en fait. Surtout que c'est un film qui est assez bavard. Effectivement, on parle beaucoup, c'est très lettré, c'est très écrit, mais à l'intérieur ce que ça développe c'est simplement à travers un truc de comédie jubilatoire et en même temps de émotionnellement une espèce d'ascenseur assez dingue, c'est l'endroit où effectivement les gens se disent bon bah voilà, est-ce qu'on n'a pas un truc à se raconter quelque chose, enfin quelque part. Enfin moi ça me paraît quand même assez rare quoi. Ouais. Ça n'est pas anecdotique.
C'est un personnage qui a une vie très pauvre parce que déjà il habite, je sais pas si on peut le dire sans dévoiler, il habite avec sa mère. Il a trouvé avec les manifestations des Gilets jaunes un combat, une raison de vivre.
D'ailleurs, il passe son temps à s'inquiéter pendant son passage à l'hôpital dans cette attente-là du sort d'un de ses camarades dont il n'a plus de nouvelles. Et c'est d'ailleurs une inquiétude qui est partagée par le couple de Marina Foïs et de Valéria Bruni-Tedeschi, puisque là, il y a un enfant qui est parti manifester, qui a un enfant qui est un grand ado, hein, mais ça reste un enfant qui ne donne pas de ses nouvelles non plus. Et c'est un peu la crainte qu'on avait pendant ces samedis de manifestation, quand ça tournait mal.
C'est-à-dire que il y a un moment ça a complètement échappé à toute forme de contrôle quoi que ce soit. Après ce qui est normal aussi c'est qu'il y a un endroit aussi de la révolte qui est vivant et qui peut être violent à des moments, maladroit et en même temps nécessaire dans la prise de position. Mais c'est vrai que enfin je pense que tout ça participe à cette rythmique aussi du film, à cette rythmique un peu effrénée, un peu tenue, un peu tendu, qui fait que, et d'intranquillité, enfin j'emploie souvent ce terme, mais moi c'est vrai que le fait de jouer un mec qui était blessé, donc ça veut dire que pendant 2 mois et demi il fallait toujours penser à ce truc de douleur, même si par convention on sait que c'est faux, mais il y a un truc qui ne met jamais l'acteur dans la tranquillité, dans la
confort,
simplicité, dans le confort exactement. Et il y a ce truc de sudation, d'y aller, d'investissement qui est assez rare quoi. Enfin, assez rare. Effectivement, ça n'est pas de l'anecdote. Quoi. Il fallait s'investir. Quoi.
Ouais, il fallait vivre cette souffrance, l'exprimer. C'est La Fracture de Catherine Corsini en salle ce mercredi. Et là, c'est Tanguy Pastureau.
Ils ont raison, les politiques qui sont en campagne électorale. La France est un pays génial. Je comprends même pas que des gens puissent vivre ailleurs. Le reste du monde n'est qu'un vaste cloaque dans lequel survivent des cultures moindres et des populations fadasses. En France, on a tout. Le moindre village pourrait amener Stéphane Bern à se jouir dessus sans se toucher. C'est beau. On a des fromages fabuleux qui font qu'on pue du bec après les avoir bouffés pendant 37 jours. Mais la laine, on s'en fout. Il suffit de sortir avec une personne qui aime également le fromage. On a de bons vins. Lâcher un Français chez Nicolas, il sera dans le même état d'extase qu'un Chinois chez Vuitton. Et surtout, on On a une incroyable tradition littéraire de grands romans. Germinal, qui parle de gens au fond du trou, comme Anne Hidalgo. À la recherche du temps perdu, qui parle des personnes qui n'ont pas d'Apple Watch. Les liaisons dangereuses, qui parle de l'explosion des MST en 1782. Et Sa façon d'être à moi, de Marlène Schiappa. Un roman que je vous recommande, si vous avez déjà lu tout le reste. Bon, et qui raconte la romance entre une dame qui bosse dans les cosmétiques bio et le rédac-chef du service politique du Figaro. Il kiffe Zemmour et porte One Million de Paco Rabanne. Elle est de gauche et sent le lait d'anès jusque sous les aisselles. Oh. Mais le désir est là. Ils font l'amour dans la rédac. Lui dit « Viens, j'ai les clés du bureau d'Anne Fulda ». Elle répond « Ok, si la prochaine fois on le fait dans le hall de l'immeuble de Laurent Geoffrin ». Bon, j'imagine qu'ensuite, ils ont un enfant. Droite plus gauche, métissage, ça donne un petit centriste. 12 jours après être né, le gosse demande à rencontrer François Bayrou. Bref, sur le papier, l'histoire ressemble à 50 nuances de Grey, mais avec des idéaux. Un mois, en lisant les extraits, j'imaginais Martine Aubry en train de prendre Bruno Retailleau à la section LR de Lille. Et donc, terrorisé, j'ai brûlé le livre et je me suis rabattu sur le nouvel Astérix. Seulement, les chiffres sont tombés et Marlène Schiappa a vendu non pas 20 000 exemplaires de Sa façon d'être à moi, ni 10 000, même pas 100, non, 64. Ouh, c'est le site actuel Lité qui parle de l'univers de l'édition, hein, qui sort le chiffre. 64 personnes en tout, 63 de sa famille, plus quelqu'un n'ayant rien à voir avec Marlène Schiappa et qui a été donc interné, hein, ont acheté le bouquin. C'est l'un des rares livres dont on peut réunir l'ensemble des lecteurs, pardon, dans un F2. Voilà. Deux produits qui sont moins bien vendus dans l'histoire. Il y a eu 1, les pins dans les villages naturistes. 2, la limonade au concert d'Iggy Pop. 3, les t-shirts avec un smiley sourire à la sortie du film Roubaix, Ville Lumière d'Arnaud Desplechin. Et en fouillant, on réalise que les livres de ministres, globalement, se vendent très mal. Jean-Michel Blanquer, qui est pourtant très connu, hein, c'est ce monsieur fragile psychologiquement qui a fait un déni de Covid. Hein, dans les écoles, les gosses tombaient comme des mouches et ils disaient « Non, ce midi, c'est à la cantine, le cabillaud devait pas être frais. » Eh bien, il a vendu 620 exemplaires de son livre « École ouverte ». Alors certes, c'est 10 fois plus que Schiappa, mais Guillaume Musso, 620 exemplaires, s'il n'écoule pas ça en un quart d'heure, il met fin à ses jours en se tranchant les veines avec un marque-page. Attendez, Emmanuel Wargon, ministre du Logement, livre sorti il y a un mois, 75 ventes chez Calman Levy, pourtant grand éditeur. Hein, je pense que du coup, il l'offre dans la rue aux gens, hein, qui crient « Laissez-moi tranquille, vouloir me refiler ce livre est considéré comme étant du harcèlement de rue. Hein, » Et même quand les ministres n'écrivent pas de bouquins, il suffit qu'ils y participent pour que le projet coule. Exemple, vous voyez Agnès Pannier-Runacher, hein, la secrétaire d'État trop lol qui avait déclaré à propos du travail en usine, je cite, « La fierté de travailler sur sa ligne de production, c'est pas une punition, c'est pour ton pays, c'est pour la magie. » Hein, elle, si elle avait écrit Germinal, justement, ça aurait été l'histoire d'une mine en pain d'épices avec des nains super heureux qui en sortent en sifflotant, comme dans Blanche-Neige, quoi. Hein, elle est plus hors sol que Thomas Pesquet. Bon, bah récemment, elle a juste écrit une petite préface pour un livre qui n'a rien à voir. Ah, 287 exemplaires seulement. Les ministres, ce sont des chats noirs qui auraient ouvert un parapluie dans le salon avec leurs petites papates. Ils portent la poisse. Si Blanquer écrit un seul mot dans un Marc Lévy, l'autre en vend deux. Alors attention, il y a des exceptions. Hein, Gérald Darmanin a écoulé 5300 copies de son livre intitulé « Le séparatisme islamiste », une sorte de Homeland dont l'action se déroulerait à Gennevilliers. Mais le meilleur vendeur, c'est Bruno Le Maire. C'est la star de l'édition. Quand on prononce son nom dans une librairie, les vieilles dames rouges de confusion murmurent « Bruno Le Maire ». Son dernier livre, « La bête et l'ange », s'est vendu à 21 800 exemplaires. Wow. C'était un bouquin poignant dans lequel il avait réussi à lister les 4200 qualités qu'il trouvait à Emmanuel Macron, hein, en mettant quand même en exergue le gros défaut du président, qui était qu'il avait trop de qualités et donc qu'à compter, ça prenait du temps. Alors, à noter que Le Maire sort le 10 novembre un nouveau livre, puisqu'il n'arrête pas, intitulé « Un éternel soleil ». Voilà, j'imagine que ça parle d'Emmanuel Macron qui rayonne. Hein, ces livres, ça ressemble à des sextos gays qu'on envoie à des copains quand on est un peu bourré. Mais à part Le Maire et Darmanin, à condition de causer de l'islam, personne ne vend. Donc, s'il vous plaît, si vous n'avez pas donné cette année au Reste du Cœur, ni au Secours Populaire, faites une action humanitaire en achetant le dernier Marlène Schiappa. N'oubliez pas que si elle vend à fond, elle arrêtera peut-être la politique. Alors, j'ai regardé sur Price Minister, sur 64 acheteurs du livre, 6 l'ont déjà remis en vente. Hein, pour 9 euros, déjà, vous pouvez vous l'offrir. Et alors, sinon, le 18 novembre, Adrien Taquet, secrétaire d'État chargé des familles, comme il est connu uniquement de la sienne, hein, on reste dans le thème, sort lui aussi un livre. En fait, on a un gouvernement d'écrivains. Les conseils des ministres bientôt vont se dérouler à la FNAC. Alors, objectif avec le livre d'Adrien Taquet, flirter avec les 25 ventes minimum. Hein. C'est-à-dire que ça peut monter à 40. Voilà. Et quand tous ces gens auront fini d'écrire, ils se mettront à bosser. Et en librairie, sur l'étagère des nouveautés, il y aura enfin de bons ouvrages à découvrir.
Bravo, Tanguy Passion.
Tanguy qui sera près de Rennes à Saint-Grégoire jeudi prochain.
Oui.
Et on continue de parler de la fracture. Ouais. Pio Marmaille, est-ce que vous avez eu peur en incarnant ce personnage de gilet jaune qui est un routier de sombrer dans une forme de caricature? Parce que je trouve que c'est là où le film tient bien, c'est que je le trouve juste, mais c'est mon sentiment à moi. Est-ce que ça a été un questionnement pour vous?
Oui, ça a été un questionnement, bien sûr, ouais. Parce que c'est pas... Quand on travaille sur un film qui traite d'une crise qui n'est pas, qui est encore vivante, qui est encore bouillonnante, c'est très délicat de pas tomber dans une forme de, effectivement, de stéréotype ou de, en fait, d'incarner une sorte de fureur un peu excessive.
Ouais, hors sol, comme ça.
Exactement. Ouais. Mais c'est un truc sur le duquel on a discuté avec Catherine, parce que il fallait trouver cet endroit, comment dire, de révolte, mais incarné un peu dur et tenu, quoi, parce que, comment dire. Sont des moi, incarner ce mec Yann, c'est quelque chose qui m'a vraiment profondément bouleversé, moi, en tant qu'individu qui vit dans une république, quoi. C'est quelque chose, je peux pas rester indifférent à cet endroit là c'est tout de nécessité de quelqu'un qui veut juste travailler, en fait. Ouais. C'est quelque chose qui me parle trop, enfin qui me touche, quoi. Donc c'est vrai que j'avais envie de servir ce propos de la manière la plus je sais pas, peut-être la plus fine ou la plus généreuse, quoi. Donc c'est vrai que ouais, mais ça m'a travaillé. C'est un peu sur le fil. C'est des personnages qui sont un peu, effectivement, un truc un peu tellement excessif et tellement bouillonnant qu'il faut faire un peu gaffe, quoi.
Est-ce que justement c'est parce qu'il y a eu cette, de votre part, vous le dites, pas une identification, mais cette envie de servir ce personnage-là, il y a eu un buzz à Cannes lors de la présentation du film, en pleine conférence de presse. Vous avez cité une réplique du film et ça a été hyper mal interprété, considérant que c'était une attaque directe au président de la République. Ouais. Est-ce que ça, c'est pas signe que le film est réussi quand tout d'un coup, même lors d'une interview, on vous confond avec votre personnage?
Après, ça fait partie d'un moment très précis à Cannes, où effectivement il y a eu un moment
sorti de leur contexte, hein,
oui, c'est-à-dire qu'on a pris une phrase au milieu d'une réponse de 3 minutes, et moi ça m'a fait beaucoup de mal, parce que je suis pas quelqu'un de violent.
Ben non,
j'ai jamais voulu, j'ai jamais appelé à la violence, je ferai jamais ça de ma vie. C'est simplement qu'effectivement, quand on veut raconter cette énergie d'un personnage et qu'on la traverse pendant 2 mois et demi, et qu'après on est en promotion et qu'on ne fait que développer cet endroit de survie, de révolte. Peut-être qu'effectivement j'ai eu des mots assez forts, mais enfin
les mots du personnage.
Bien sûr, et bien oui et non, c'est que je voulais traduire, en fait, cette espèce d'énergie. Mmh. Effectivement, quand on isole une phrase au milieu de 3 minutes de réponse, ça peut amener à une espèce de quiproquo et après ça part sur Internet. Et tout,
Une leçon à tirer de ça, en tout cas, de se dire.
Passons, c'est fait, c'est comme ça raconte quelque chose d'assez dingue. Enfin, aujourd'hui, quoi, c'est vraiment l'endroit de la langue et de ce qu'on développe. Enfin, si c'est isolé, bon, bref.
Mais c'est pour ça que je vous posais cette question-là, parce que je trouve que c'est assez symptomatique, justement, d'un moment de tension, de difficulté. Vous avez présenté le film lors d'avant-première un peu partout en France. Quelles ont été les réactions, justement?
Mais même à Cannes, hein, les réactions étaient géniales, quoi. Mmh. Il y avait un truc vivant, drôle, enfin, d'un public qui est avec. Et ça, c'est là où, pour moi, c'est réussi. C'est l'endroit où, je sais pas, il y a un truc qui n'est... C'est un film assez politique quelque part, mais il y a un truc de, je sais pas, de une espèce d'envie générale de rire aussi, de s'amuser, un truc de classe, un truc comme dans les comédies italiennes des années 60.
C'est très drôle.
Mais il y a quelque chose de, je sais pas, où il y avait un truc bouillonnant, même en avant-première, où les gens ont envie de s'amuser, quoi, de jubiler un peu de ça, quoi.
Et c'est en salle mercredi, La Fracture de Catherine Corsini, avec vous, Pio Marmaille. Que se passe-t-il d'autre dans le monde de la culture? On va parler de Sally Rooney, auteure de best-seller en Angleterre. Elle vient de prendre une décision très forte concernant son dernier livre, Beautiful World, Where Are You?
De ne pas le faire traduire en hébreu. Enfin, de ne pas le publier en hébreu.
Ah, c'est un jeu là.
Absolument.
La musique bascule. On part dans une direction.
C'était
des questions, c'était
l'interroculture, et c'est Marina qui a trouvé. En effet, l'autrice Sally Rooney a décidé de ne pas faire traduire en hébreu son dernier opus de sa trilogie. Elle veut pas vendre à la maison d'édition les droits de ce troisième roman, parce que elle ne veut pas le faire par solidarité avec un mouvement qui boycotte Israël pour la façon dont le pays traite les Palestiniens. Voilà ce qu'elle a expliqué par voie de communiqué. C'est un engagement très très fort de cette autrice. Est-ce que l'art est forcément politique pour vous, Pio Marmaille?
Oui, je pense. Enfin, en tout cas, ce qui est délicat, c'est que pour moi, l'engagement politique. Mon engagement politique en tant qu'artiste, il n'existe que dans les choix que je fais comme acteur ou dans les personnages que je peux incarner. C'est le seul endroit que je m'autorise comme activiste quelque part, politique. Après, je peux faire des films qui sont plus anecdotique, dans le sens plus large, enfin, ouais. qui développe des pensées qui ne sont pas forcément militantes. Mm-hmm. Mais quelque part, moi, je pense que l'endroit de l'artiste, il est dans le choix. Peut-être dans le choix, et je pense que après c'est quand on est acteur, on est exécutant, donc c'est très différent. Mmh. Je suis au service d'eux, mais quand on est metteur en scène quelque part, effectivement, peut-être qu'il y a quelque part l'engagement politique, il existe, il doit exister, même s'il n'est pas forcément militant, on n'arrive pas avec un drapeau rouge, c'est pas la question. Mais quelque part, il y a un peu de soi, il y a un peu de sa pensée qui résonne, parce que la politique, c'est la confrontation d'idées, et de la pensée intellectuelle.
Pierre Marmaille, un conseil pour le conflit israélo-palestinien, 30 secondes.
Alors, attends,
30 secondes.
Depuis qu'on fait la promotion de ce film, on me pose des fois des questions. Ouais. Mais que pensez-vous du rétablissement possible entre le peuple et les dirigeants politiques? J'ai dit, mais attendez, mais moi, je suis
en une phrase.
En 20 secondes, top.
Et l'union de la gauche,
moi, je suis
acteur.
Je ne me rends pas trop compte.
Et votre question, si je vous parle d'Emmanuel Cruvelier, de Michel Carassou, d'Yves Denis, de Laporte, d'Éric Dubois, d'Eduardo Pisani, de Mario Vargas Llosa ou de Frédéric Vignal. Je parle de quoi? De qui?
D'auteurs.
Ouais. Et que de oui.
La liste des rentrées littéraires, les
non.
favoris.
Non, ils sont candidats. Ils sont candidats. Candidats à l'immortalité.
Ah, ouais. À l'Académie française.
Absolument. Ils sont candidats pour reprendre le siège de Michel Serres à l'Académie française. Réponse le 25 novembre.
Limite... On attend cette réponse.
Mais ouais.
on va se réjouir du résultat.
Parce que justement,
Pio,
vous avez jusqu'au 11 novembre pour proposer votre candidature. Ça vous intéresse? Les honneurs à ce point.
Attendez,
pour l'Académie française, les honneurs en général. Bah, les honneurs, les récompenses, prix. Les
oui,
prix.
Oui, je pense que c'est quand c'est remis par la profession et des gens. Enfin, je sais pas.
Il y a plein de gens qui nous disent à ce micro qu'ils n'en ont rien à faire.
Oui, bah, tant mieux pour eux. Ouais. Après, moi, non, mais dans l'absolu, c'est toujours agréable de recevoir un prix.
Bah, oui.
Enfin, je sais pas, moi, je suis quelqu'un de normal, quoi. Oui, ouais. ça me paraît. C'est quand c'est les gens bienveillants qui vous le donnent, pourquoi pas. Moi, ça me ferait plaisir. Voilà, je viens de passer mon petit mot.
C'est ton petit mot.
Un petit message. Okay. Non, mais c'est vrai, ça fait jamais mal.
Aux gens qui s'en foutent, en fait.
Et puis c'est un moment de célébrer la joie, quoi.
C'est ça. Moi, je célèbre beaucoup la joie.
Oui, oui.
Vous êtes pour la joie.
Je suis à fond pour la joie.
Vous êtes le parti de la joie, en fait. Il faut expliquer que vous êtes arrivé avec la voix cassée dans cette émission parce qu'il y a eu un grand événement dans votre vie. C'est
oui, j'ai jeté des bûchettes. Non, j'ai jeté des bûchettes sur les individus dans une forêt pendant 10 jours pour le film que je fais là. Et après, oui, effectivement, on est champion du monde MotoGP grâce à
Fabio Quartararo.
Donc effectivement, hier, on a un peu crié parce qu'il a gagné.
C'est pour ça qu'on a une voix très très
un peu rocailleuse,
ou un petit peu une voix de centaure. Et justement, on va parler des projets. Là, vous tournez en ce moment
Les Mousquetaires. Oui.
Les Mousquetaires. C'est un tournage colossal, très très long.
Oui, 6 mois.
6 mois, ouais.
Mais c'est assez dingue. Hein. C'est un peu comme quand j'étais enfant et que je me disais, tiens, un jour, si je joue un mousquetaire, ce sera ça. Complètement claqué, ce que je viens de dire. Je joue Porthos. Moi, je suis très content de jouer Porthos.
Vous êtes Porthos.
Moi, je suis Porthos. Ouais.
D'accord.
Ouais, voilà.
Et c'est réalisé par Martin Bourboulon.
Oui, avec François Civil, Romain Duris, Vincent Cassel, Eva Green, Louis Garrel, enfin, beaucoup de gens talentueux.
Louis Garrel, c'est Aramis?
Non, Louis Garrel, il joue le roi.
Ah, d'accord.
Et, mauvaise réponse.
Enfin, c'est vraiment un truc,
c'est
génial,
un truc d'enfance,
quoi. D'enfant, de cap et d'épée, et en même temps, hyper généreux, où les moyens sont là pour essayer de générer un truc romanesque, quoi. Un vrai truc d'action et de vie. Enfin, moi, je trouve ça absolument génial.
On va vous retrouver aussi dans un film Enquête sur un scandale d'État de Thierry et de Peretti. Ça sera pour février 2022. Que jouez-vous dans ce film?
Je joue le rôle d'Emmanuel Fonstein, qui est un journaliste chez Libération, qui rencontre un ancien infiltré, et de cette rencontre, en fait, naît une amitié assez forte, et il décide de renverser l'Office central de répression du trafic de stupéfiants, c'est une histoire vraie.
Avec Roche Dizem, Vincent Lindon, Alexis Manetti.
Et Alexis Manetti, ouais. Et ça, c'était aussi un film qui m'a aussi beaucoup travaillé, énormément de textes aussi, assez littéraire, mais en même temps, un truc d'immersion. On a bossé à Libération pendant un mois et demi, avec la rédaction, et il y avait on en parlera peut-être plus tard, mais ça c'est encore une expérience de travail assez dingue.
Et il y aura aussi Compagnon de François Favra,
oui,
avec Agnès Jaoui. Notamment.
Et alors ça, c'est quand? Parce que j'ai oublié.
Ça sera en mars 2022, c'est juste pour annoncer un peu les projets.
Oui.
Et qu'avez-vous tourné là qui va sortir, peut-être, à part Les Mousquetaires? Les Mousquetaires, ça doit vous prendre un temps fou.
6 mois, oui.
Et donc pas moyen de tourner autre chose.
Les gens vont en avoir marre, non? Parce que ça fait beaucoup de trucs.
Je sais pas.
Non, on est content. On est content de vous voir.
Qu'est-ce qu'on a dit?
La joie ?
Non, pas le parti de la joie, bien sûr.
Le parti de la joie.
Le truc de le Panthéon là,
peut-être l'Académie française. Ça c'est jusqu'au 11 novembre.
C'est quand vous serez mort, hein. C'est pas exclu.
Oui, tenez-vous prêt. Daniel, des excuses à présenter peut-être.
Oui, absolument. Oh oui, oui, tellement. Désolé pour nos auditeurs radicaux qui ont été écœurés par l'émission de ce matin et cet appel au dialogue et la réconciliation. C'est vrai qu'en rien que les mots me dégoûtent. Heureusement, demain on parlera de dépression et de tromperie avec Guillaume Canet. Youhou ! Désolé pour nos amis de droite, fans de Lille, qui n'ont pas trop aimé notre complaisance avec le mouvement Gilets jaunes. C'est vrai que c'était dégueulasse, mais bon, on voulait pas décevoir le Figaro Magazine qui nous a fait l'amabilité de nous traiter de gauchistes systématiques, voire systémiques. Désolé pour nos auditeurs grincheux qui m'ont reproché de faire l'apologie de la drogue, du crime organisé, du tourisme en Colombie. Ben c'est quoi le problème ? Me dites pas que c'est interdit la cocaïne, si ? Ah ok, si on me cache des trucs, je n'y arriverai décidément jamais. Désolé pour toutes les femmes qui ne veulent pas jouir, qui ne veulent pas jouir et qui, pendant 3 minutes 30, ont dû subir les injonctions orgasmiques de Marina Rollman. Et on a tout à fait le droit d'avoir comme perspective de divertissement autre chose que le cul, même si... Non, je pense à un truc dégueu. Je vais le garder pour moi. Désolé enfin pour Pio Marmaille, feignasse notoire, qui, on l'a découvert ce matin, a dû bosser sur un film tout en se faisant engueuler. Bah, oh, ça me rappelle Nagui, hein, il finit par manquer celui-là.
La fracture de Catherine Corsignan, sale, ce mercredi avec Marina Foïs, Aïssatou Diallo Sagna, Valéria Boni-Tedeschi, mais également Janice Bouziani ou encore Marin Laurence, Camille Sanster, Jean-Louis Coulocq, Caroline Estremo au casting de ce très bon film à ne pas manquer. Et merci beaucoup Pio Marmaille d'avoir été avec nous, nous avoir
d'être
supporté.
D'être resté contrairement. Hein,
voilà, hein. D'avoir été en grande forme. Qu'est-ce que vous avez vu récemment au cinéma, vous, qui vous a donné un peu d'élan ?
Ouh là là, je suis pas allé au cinéma récemment.
C'est vrai. Au spectacle ? Puisqu'on dit pareil, ici qu'il faut inciter les gens à y aller.
Sur TikTok, sur Snapchat.
Si je me nourris beaucoup de trucs un peu gras. Fin la réponse, allez, ciao.
Merci beaucoup, merci beaucoup. Et merci à toute l'équipe autour de la table. Merci Marina, merci Morgane, merci Tanguy, merci Daniel.
Merci,
nous, on va se retrouver demain pour la suite de la bande originale. Vive la joie, le parti de la joie. On sera avec Guillaume Canet, on va parler du film Lui, tourné sur une île. Et cette fois-ci, il a quitté la Nouvelle-Aquitaine pour aller en Bretagne. On en parlera demain avec lui. Passez une très très belle journée sur France Inter. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec notre cher Philippe Bertrand pour parler des carnets de campagne.